30, 14h. Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur Europe 1. Je suis ravie de vous retrouver jusqu'à 14h en compagnie de Marlène. Bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Nous sommes ensemble jusqu'à 14h donc. Et évidemment, vous attendez le grand journal. Il est là, c'est Pierre Devineau qui va vous le présenter d'ici quelques minutes. Et puis juste après, ensemble, on va faire bouger la France. En rythme aujourd'hui, s'il vous plaît, à la veille de la fête de la musique, nous avons eu envie d'aller à la rencontre de ceux qui innovent en France. Et vous allez voir qu'ils sont nombreux. À tout de suite.
Il est midi et demi. Le journal de la mi-journée sur Europe 1, Pierre Devineau, Raphaël Duchemin.
Bonjour Pierre.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Du vent, de la pluie, de la grêle, Toulouse frappée par d'impressionnantes intempéries, c'était hier.
Un orage court mais très fort, le point dès le début de ce journal et nous verrons que d'autres régions ont également été frappées. Un pas de plus vers le cannabis thérapeutique, le gouvernement a demandé l'avis d'experts. L'un d'eux, Pierre-Yves Joffard, sera avec nous en direct tout à l'heure. C'est le chamboule-tout en ce moment à Bruxelles, on désigne les têtes pensantes de l'Union en concertation avec les pays membres. Nous serons avec notre correspondante dans quelques instants. Dans ce journal également, un accord sur les assistants médicaux et le rôle qu'ils auront à jouer. Jacques Toubon, le défenseur des droits, qui alerte sur la cantine, pas équitable, selon les moyens des parents. Et puis le foot avec la Coupe du Monde féminine, trois adversaires potentiels pour les huitièmes de finale. Nous verrons les caractéristiques de chacune des équipes. La météo, Laurent Cabrol, est-ce qu'il y a encore des orages ?
Il y en aura aujourd'hui, bien sûr. Nous sommes empêtrés et nous restons empêtrés dans cette zone orageuse encore pendant 48 heures. Demain, ils seront présents pratiquement comme aujourd'hui dans les mêmes endroits, mais avec beaucoup plus de violence sur le Limousin et l'Auvergne. Attention. Ensuite, ça va vraiment s'arranger à partir de samedi. Et dimanche et lundi, la chaleur revient.
Le détail et la météo complète, ce sera juste avant 13h. Merci Laurent Cabrol.
Europe 1.
Et donc, les orages, on y revient, Pierre, ou plus précisément, un orage court, violent. Ça s'est passé hier soir à Toulouse.
Yasmina Katou, des intempéries d'une rare intensité, vent, pluie et grêle, tout mélangé.
Oui, c'était un peu comme un mur d'eau. La scène a duré à peine 10 minutes. Au total, 3,5 cm d'eau sont tombés à Toulouse, l'équivalent de 15 jours de pluie. Des rafales de vent à 137 km/h, du jamais vu depuis la tempête de 99. Le tout accompagné de grêlons de 2 cm. Les images sont spectaculaires. Pierre a été impressionné par la violence de l'orage.
J'ouvre la fenêtre en salle de bain. C'était les éclairs de la grêle, mais c'était ça tapait sur les murs de la maison. On ne pouvait pas dormir, c'était vraiment assourdissant, quoi. Encore ce matin, il y a des endroits, il y a des paquets de grêle par terre.
Conséquence, 163 interventions de pompiers hier soir, mais pas de blessés. Perturbations sur les rails ce matin également. Trafic ralenti sur les axes Toulouse-Tarbes et Toulouse-La Tour de Carole. 700 personnes sont toujours privées d'électricité.
Et il n'y a pas que la région de Toulouse qui a été frappée, Yasmina.
Oui, le Nord-Pas-de-Calais, hier en début d'après-midi, ce n'était pas aussi fort qu'à Toulouse, mais des maisons ont été inondées. À Saint-Amand, une maison a été partiellement détruite par la foudre. Mais aujourd'hui, retour à la normale côté météo.
Merci Yasmina Katou.
Europe 1 vous donner l'information en exclusivité dès hier matin. Jacques Ranson, celui que l'on a surnommé le tueur de la gare de Perpignan, a été auditionné, Pierre, dans un cold case vieux de 33 ans.
Le meurtre d'Isabelle Ménage, 20 ans près d'Amiens, c'était en 1986. Jacques Ranson avait été extrait de prison parce que le corps exhumé de cette jeune informaticienne portait des traces de sévices semblables à celles de la tuerie de Perpignan, Chloé Triomphe. C'est vous qui nous apportiez cette information hier matin sur Europe 1 et vous nous dites aujourd'hui que Jacques Ranson a avoué.
Effectivement, des aveux tardifs au bout de près de 48 heures de garde à vue devant les gendarmes de la section de recherche d'Amiens, venus spécialement à Béziers pour interroger le suspect. Des aveux qui viennent donc conforter les différents éléments matériels dont disposent les enquêteurs et les deux magistrats instructeurs. Les mutilations sur le corps, mais aussi la présence établie de Jacques Ranson dans la région d'Amiens à l'époque du crime. Pour la famille en tout cas, c'est un immense soulagement, comme en témoigne leur avocate, maître Corinne Herman.
C'est une émotion intense, je viens de leur annoncer les aveux. Ils ont du mal évidemment à y croire au départ et puis je dirais que ce que m'a dit M. Ménage, le père d'Isabelle Ménage, c'est que c'est une satisfaction incommensurable pour lui. C'est un homme âgé maintenant de 86 ans qui attendait plus cette vérité mais qui en avait besoin et il est dans une émotion absolue aujourd'hui.
Ce matin, au terme de sa garde à vue, Jacques Ranson a donc été conduit devant les juges pour être mis en examen pour ce crime épilogue d'un cold case de 33 ans, vous l'avez dit, qui pourrait à nouveau le conduire devant une cour d'assises.
Merci Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. On apprend que deux surveillants de la prison du Havre ont été agressés ce matin par un détenu condamné en 2017 pour association de malfaiteurs terroristes. Des coups portés aux bras et aux jambes à l'aide d'un pied de table en fer tout en criant « Allahu Akbar ». L'individu revenait du djihad en Syrie. La justice encore avec 20 ans de réclusion criminelle requis à l'encontre de Sylvie Horning. Cette femme est jugée depuis mardi dans le Haut-Rhin pour avoir tué 5 de ses nouveau-nés.
Midi 34, la suite du journal sur Europe 1. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Et on prend la direction de Bruxelles maintenant, Pierre, puisque tout change. C'est le mercato post-élection européenne et du coup, à la Commission, au Conseil, on change toutes les têtes pensantes.
Ouais, c'est comme dans le foot ou comme dans l'audiovisuel. On réfléchit sur des profils très nombreux. On imagine parfois très ambitieux. La grande question, c'est qui va remplacer Jean-Claude Juncker ? Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1 et dans cette série de conciliabules, il y a Emmanuel Macron qui est arrivé tout à l'heure vers 10h.
Et oui, car le président de la République veut peser sur la nomination du président de la Commission et du Conseil européen. Une partie de sa stratégie européenne en dépend. Il veut un homme ou une femme qui partage sa vision de l'Union, quelqu'un comme la libérale danoise Margrethe Vestager ou le conservateur Michel Barnier. Mais il ne faut jamais oublier qu'ici, la France n'est qu'une voix parmi d'autres, même si elle est importante. Et donc, il faut trouver un accord avec les 27 autres dirigeants, avec l'Allemagne par exemple, qui pousse le Bavarois Manfred Weber, mais il manque d'expérience gouvernementale. Angela Merkel va finir par le lâcher, mais elle voudra des compensations en échange. Et puis, il faut aussi trouver un équilibre entre les postes de pouvoir, un équilibre homme-femme, un équilibre politique et aussi un équilibre géographique, nord, sud, est, ouest. Donc l'équation est particulièrement complexe, comme souvent au niveau européen. À cette heure-ci à Bruxelles, c'est vraiment l'heure des pronostics, des paris, des spéculations. Chacun a sa petite liste de favoris, des journalistes aux diplomates, mais en réalité, personne ne sait vraiment ce qui finira par sortir du chapeau.
Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
À Flamanville, Pierre, décidément rien ne va plus. EDF se retrouve à devoir réparer 8 soudures qui sont en plus difficilement accessibles.
Emmanuel Dutheil, l'électricien, avait demandé un délai, mais il se retrouve obligé d'obéir à l'ASN, le gendarme du nucléaire, appuyé d'ailleurs par le gouvernement.
Oui, le père de Flamanville, c'est décidément un chantier maudit qui enchaîne les retards. Imaginez, cette centrale nucléaire beaucoup plus puissante aurait dû ouvrir en 2012 au démarrage. Ce sera maintenant au mieux fin 2022, début 2023. Elle aurait dû coûter 3,3 milliards euros. Ce sera finalement plus de 10 milliards. Et encore, on peut se demander si elle ouvre un jour. Parce que quel est le problème ? Eh bien, il y a des soudures de la cuve qui ont été, de l'avis du gendarme du nucléaire, mal faites. Il faut donc les reprendre. Mais voilà, elles sont dans des endroits très difficiles d'accès. C'est donc vraiment un travail titanesque qui va devoir être mené, d'où ce nouveau retard. Pourtant, sur place, tout est prêt. Europe 1 a visité le chantier il y a un mois et on en était vraiment, je peux vous dire, au tout dernier coup de peinture. Tout le monde sur place se préparait pour lancer l'EPR et il travaillait. EDF espérait encore à l'époque que ça puisse être possible d'ici l'an prochain. Mais voilà, patatras, faut donc tout refaire. De nombreuses équipes vont se retrouver sans travail puisqu'il n'y aura plus que les soudures pendant toutes ces années à faire sur place. Du côté d'EDF, je peux vous dire que ça passe très mal. Une source proche de l'électricien considère que c'est un procès sans appel et que l'ASN veut faire la peau à EDF.
Merci. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Jean Leonetti était l'invité d'Europe 1 ce matin. Le président par intérim des Républicains demande que la liberté de conscience puisse s'exprimer chez les parlementaires sur l'épineuse question de la PMA. Celui qui pour l'instant succède à Laurent Wauquiez a rappelé à notre micro qu'il était contre. Pas sain, dit-il, de faire naître des enfants sans père. D'autre part, il craint que la pénurie de gamètes entraînerait une marchandisation.
Pendant ce temps, Jacques Toubon part en guerre, Pierre, contre les discriminations à la cantine.
Le défenseur des droits a mis à plat les tarifs de cantine. Et Virginie Salmen, il constate qu'il y a de gigantesques disparités entre les communes avec des répercussions sur les familles et sur leur niveau de vie.
Et oui, parce que certaines communes font payer le prix fort à toutes les familles. Elles n'appliquent aucun tarif social. En moyenne, la cantine, ça coûte 400 euros par an à une famille. Et pour les plus modestes, l'effort financier est proportionnellement plus élevé. Ce qui fait que 40% des familles les plus pauvres ne mettent pas leurs enfants à la cantine. Alors il y a le repas à 1 euro que le gouvernement vient de lancer, mais ça devrait concerner à peine un quart des communes. Le défenseur s'alarme de l'importation en France de la pratique des déjeuners humiliants. Une pratique venue des États-Unis. Ça s'est fait par exemple à la Teste de Buch en Gironde où on a servi des raviolis à des enfants dont les parents n'avaient pas payé la facture de cantine. Il y a aussi des cas d'enfants exclus de la cantine parce que leurs parents n'ont pas réglé la note. Des élèves que la mairie refuse d'inscrire parce que leurs parents sont chômeurs ou encore des enfants de familles roms à qui les services communaux appliquent le tarif étranger à la commune. Le nombre de réclamations a bondi de 68% entre 2017 et 2018.
Merci, on suivra ça avec précision. Merci Virginie Selmen, spécialiste éducation d'Europe 1.
Il est 12h39.
Europe 1.
Quelques réclames, comme on disait avant, Pierre, c'est ça ? Et dans un instant, l'accord avec l'assurance maladie sur les fameux assistants médicaux et le gouvernement qui mandate des experts sur la légalisation du cannabis thérapeutique. A tout de suite.
Il est 12h41, le journal de la mi-journée se poursuit avec vous, Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Et ça y est Pierre, hein, l'assurance maladie s'est mise d'accord avec les plus gros syndicats de médecins sur les fameux assistants médicaux.
Accord qui va donc fixer les règles de financement sur ces 4000 super secrétaires. Promis par Emmanuel Macron à l'automne dernier, ces nouveaux professionnels de santé doivent seconder les médecins généralistes comme les spécialistes dans leur cabinet pour, Eve Roger, leur permettre de recevoir plus de patients.
Et oui, dès le mois de septembre, les patients vont découvrir les premiers assistants médicaux dans les cabinets de leurs médecins. Pour démarrer, ce seront des secrétaires médicales en formation continue, suivis ensuite par des aides-soignantes ou des infirmières qui auront été formées pour ce nouveau métier. Objectif, faire gagner du temps aux médecins pour qu'ils puissent recevoir donc plus de patients, explique Jacques Battistoni, le président de MG France.
En accueillant le patient, en aidant le médecin à remplir le dossier médical, en tenant compte des consultations qui doivent être prises, par exemple chez le cardiologue ou des examens de surveillance du diabète, l'assistant médical va nous aider à gagner du temps auprès du patient. Il va nous aider aussi sur tout ce qui nous prend beaucoup de temps, l'après-consultation pour avoir un examen radiologique rapidement. L'assistant médical, il est là pour nous faire gagner du temps.
Donc on a compris, il gagne du temps. Dans les déserts médicaux qui concernent 17% de la population, l'assurance maladie financera un assistant pour un médecin, pour lui permettre justement de multiplier les consultations. Ailleurs, ça sera un assistant pour deux ou trois médecins, à condition qu'ils travaillent sous le même toit, dans le même cabinet. En contrepartie, tous ont des objectifs chiffrés. Un généraliste devra devenir le médecin traitant de 5 à 20% de patients en plus. Un spécialiste devra augmenter le nombre de ses consultations dans les mêmes proportions.
Merci de ces précisions, Eve Roger.
C'est donc enclenché, l'idée du cannabis thérapeutique a fait son chemin, Pierre, jusqu'à Matignon. Et voilà que des experts vont conseiller le gouvernement.
Des experts du Conseil d'analyse économique, bonjour Pierre-Yves Joffard.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur à l'École d'économie de Paris, co-auteur de cette note du CAE, cette note où vous présentez les tenants et les aboutissants de la potentielle légalisation du cannabis. Première question, on est bien d'accord, c'est uniquement le cannabis qu'on appelle thérapeutique?
Alors, non, la note porte justement sur le cannabis à usage récréatif.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire le cannabis qui peut être utilisé à des fins récréatives par les usagers, donc pas pour des finalités thérapeutiques.
Et qu'est-ce que vous constatez alors justement dans cette note ?
Ce qu'on constate, c'est aujourd'hui, c'est un produit qui fait l'objet d'une prohibition et d'une répression très forte. Hein. La France a une des politiques pénales les plus répressives en Europe sur le sujet, et malgré ça, un niveau de consommation très élevé, et notamment chez les plus jeunes. On est sur des chiffres où, à 17 ans, il y a de l'ordre de 40% des jeunes qui ont déjà expérimenté le cannabis. C'est beaucoup plus élevé, c'est deux fois plus élevé que la moyenne européenne. Et ça, c'est un vrai problème de santé publique.
Ça signifie que
donc,
tout ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, y compris effectivement en arrêtant ceux qui en consomment et ceux aussi qui en vendent, ne fonctionne pas, en tout cas en l'état ?
Alors, le constat, c'est qu'il y a une politique répressive très intensive et un niveau de consommation très élevé. Donc, le constat,
mais alors, la solution,
c'est que, effectivement, ça ne marche pas.
Votre solution, en tout cas, cette note, vos recommandations, elles vont dans quel sens ?
Alors, elles vont dans le sens de, d'abord, la note essaye de faire le bilan de ce qu'on peut savoir dans la littérature académique, hein, dans les études économiques sur le sujet. Ces études s'appuient beaucoup sur les expériences en cours. Il y a beaucoup d'États ou de pays qui ont légalisé, oui, et à chaque fois, ils le font de manière différente. Donc, on a beaucoup d'éléments qui nous permettent de réfléchir à ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Et est-ce que ça marche, justement, cette légalisation ?
Alors, la réponse est une réponse typique d'économiste, ça dépend. Mais on peut aller plus loin, c'est-à-dire que ça dépend de comment c'est fait. Ça dépend vraiment des détails,
où est-ce que
des
ça
modalités
marche,
pratiques.
Où est-ce que ça marche bien et où est-ce qu'on pourrait s'inspirer?
Alors, on peut dire aussi que si on se pose la question de « est-ce que ça marche ?», il faut s'interroger par rapport à quel objectif. Il nous semble que les objectifs prioritaires, c'est avant tout l'éradication du trafic, qui est extrêmement néfaste, et la protection des mineurs. L'objectif qui est retenu dans d'autres États, qui est également d'avoir des recettes fiscales importantes sur le sujet, nous paraît être un objectif secondaire dans le cas de la France.
On comprend bien, Pierre-Yves Joffard, qu'il n'y a pas une seule réponse. On ne peut pas dire est-ce qu'il faut légaliser le cannabis, oui ou non. Ça, c'est impossible de répondre. Mais vous, en 30 secondes, vous dites quoi ?
On dit que une légalisation régulée dans le cadre d'un monopole de production et distribution, monopole délégué à des distributeurs privés évidemment, mais fortement encadré par l'État, avec un renforcement de l'interdiction de vente aux mineurs, peut permettre de baisser la consommation chez les plus jeunes, ce qui est le vrai problème aujourd'hui sur le cannabis récréatif.
Voilà ces premières recommandations. Merci beaucoup Pierre-Yves Joffard d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Et midi 47, la suite du journal sur Europe 1. Pierre Devineau, Raphaël Duchemin.
Partons maintenant, Pierre, si vous le voulez bien, du côté de Perpignan. Des syndicats, mais aussi des organisations politiques tentent de sauver le train primeur Perpignan-Rungis.
Et comme son nom l'indique, ce train part tous les jours de Perpignan, il emporte avec lui fruits et légumes de toute une région, mais aussi d'Espagne. Tout cela arrive au grand marché de Rungis, le plus grand vivier de France. Et pour l'empreinte carbone, un train équivaut à 50 camions sur les routes. Benjamin Peter, bonjour. Vous êtes en direct de Perpignan. C'est donc une opération sauvetage, rassemblement en ce moment devant la préfecture, car pour l'instant, les syndicats n'ont aucune nouvelle, ni de la poursuite du train, ni d'un plan B.
Oui, une réunion est prévue cet après-midi au ministère des Transports, mais malgré les annonces, pour le moment, rien n'est prévu pour la poursuite de ce train des primeurs qui part chaque jour, vous le disiez, de la gare Saint-Charles, ici, direction Rungis. L'équivalent de 50 camions, 25 000 par an tout de même. Ce train, Michael le conduit et pour le moment, à la fin du mois, tout s'arrête.
La dernière rotation, c'est moi qui l'ai fait le samedi 29 juin, mais après, il n'y a rien. Pas de planning. Et là, ce qu'on craint, c'est que tout passe par la route, quoi. Ce qu'ont dit les transporteurs. À partir du 1er juillet, ils s'organisaient pour que le trafic, la marchandise, monte à Rungis par la route. L'équivalent de 50 camions par trajet sur les routes.
À l'heure où l'écologie est une des principales préoccupations, Yvan, qui assure l'entretien de ce train, ne comprend pas cette logique.
Ils parlent comme quoi ils sont pour l'écologie et tout, et de l'autre côté, ils sont en train de tout casser, quoi. Et ensuite, ils nous disent à nous, c'est à cause de nous que la terre est polluée, quoi. Qu'il faut changer nos diesels, qu'il faut rouler à l'électrique. Et d'un côté, on a un train qui marche très bien, on veut l'enlever pour remettre des camions sur la route. Voilà, c'est incompréhensible.
Alors à l'instant, les cheminots ont installé des rails devant la préfecture pour interpeller le gouvernement parce que la crainte, elle concerne aussi l'emploi. La disparition du train de nuit pourrait menacer la plateforme Saint-Charles de Perpignan, le poumon économique du département. 8000 emplois directs ou indirects pourraient donc disparaître.
Merci de ces précisions, Benjamin Peter, en direct de Perpignan.
Il est midi 49. Europe 1.
Restez avec nous en direct sur Europe 1 dans un instant. Le foot féminin et la Formule 1. A tout de suite.
Midi 51, on retrouve Pierre Devineau et Raphaël Duchemin pour la suite du journal sur Europe 1.
Avec le foot, Pierre, et la suite du mondial féminin, prochain match des Bleus dimanche, mais pour l'instant, on ne connaît pas encore l'adversaire.
Et potentiellement, les Bleus affrontent soit le Brésil, soit le Cameroun, soit la Nouvelle-Zélande. Bonjour Christophe Lamar.
Bonjour.
Quelles sont les forces et les faiblesses de ces trois équipes ?
Eh bien, le plus fort, c'est le Brésil. Le plus dangereux, c'est le Brésil. Le problème avec la Seleção, c'est que l'on finit par alimenter nous-mêmes la boîte à clichés déjà bien pleine. Le soleil, la plage, le football spectacle, la finesse technique, les dribbles et les gestes fous, etc., etc. Cela existe, mais pas chez les filles, pas plus que chez les hommes d'ailleurs. Alors, cela ne veut pas dire que les Brésiliennes ne savent pas jouer au football, surtout pas. Le danger numéro un s'appelle Marta. L'attaquante est la meilleure buteuse de l'histoire des Coupes du Monde, 17 au total. Si elle ne va plus aussi vite qu'avant, elle est techniquement très au-dessus du lot. La Nouvelle-Zélande joue plutôt sur sa défense, même si elle compile déjà 3 buts encaissés, c'est un peu gênant. En attaque, c'est pire, 0 but inscrit. C'est leur 5e phase finale de Coupe du Monde et les Néo-Zélandaises n'ont toujours pas gagné le moindre match. Quant aux Camerounaises, 8e de finaliste il y a 4 ans, normalement la défense est aussi leur point fort, mais que ce soit le Cameroun ou la Nouvelle-Zélande, ces deux formations sont franchement largement à la portée des Bleus.
Eh bien, comme ça, c'est clair. Merci Christophe Lamar du service des sports d'Europe 1.
Et puis le sport, Pierre, c'est aussi la Formule 1. Le circuit du Castellet accueille la compétition le week-end prochain.
Et ce sera donc le grand retour de la F1 en France. Après 10 ans d'absence, on suivra bien sûr ce Grand Prix largement dominé par les Mercedes avec Axel May aux commentaires tout au long du week-end. Jean Todt, le président de la FIA à la Fédération Internationale de l'Automobile, était l'invité de Nikos Aliagas ce matin sur Europe 1. Et à la question de savoir si la Formule 1 s'était important pour la France, voici ce qu'il répond.
C'est très important dans la mesure où la France fait partie des 21 épreuves du calendrier de Formule 1. Elle avait disparu entre 2008 et 2018 et ça fait quand même partie du patrimoine français automobile.
Et puis ça relance un peu la machine. Le circuit Paul Ricard, il est mythique. Qu'est-ce qu'il a de spécial?
C'est un circuit magnifique qui était en fait qui est arrivé grâce à la vision d'un homme formidable qui était Paul Ricard. Et puis ensuite le Grand Prix de France est étalé sur le circuit de Magny-Cours. Et puis récemment, grâce à l'enthousiasme d'une équipe avec Christian Estrosi, on a revu le Grand Prix. Et c'est un Grand Prix dans un domaine absolument exceptionnel. Alors il y a un peu de circulation, ça fait partie des petits problèmes d'accès. Mais on est très content de revoir un Grand Prix en France.
Ouais, circulation autour du Paul Ricard, ça c'est connu. Jean Todt, invité de Nikos Aliagas ce matin sur Europe 1. Et c'est libre à partir de demain, qualificatif à partir de samedi. Il nous fallait cet hommage musical, I Love You So, du groupe Cassius, pionnier de l'électro en France. L'un des deux membres, Philippe Sdar, est mort accidentellement hier soir à Paris. Leur dernier album, Dreams, sort demain.
Merci Pierre, on vous retrouve d'ici quelques minutes pour les grands titres de ce jeudi.
Il est 1h05.
Europe 1.
Et nous étions en musique, nous allons continuer en musique. Ouvrez bien vos oreilles pour découvrir ensemble, de 13h à 14h, toutes les innovations françaises qui font bouger le monde de la musique, justement. C'est la France qui bouge avec vous. On vous attend.
Bientôt 13h, c'est l'heure de la météo, Raphaël Duchemin.
Avec Laurent Cabrol. Où on en est, Laurent, des orages, ça continue?
Oui, bien sûr. Alors, ils vont éclater, surtout cet après-midi. Pour l'instant, on en a vu ce matin sur les côtes méditerranéennes. Il y en avait aussi un petit peu dans l'Est. Ce sont les lieux de prédilection. Ils seront présents à la fois aujourd'hui et demain sur le Massif central. Attention, demain, sur le Limousin et l'Auvergne, il pourrait être assez violent. C'est un risque qui se dessine à l'heure où nous parlons. Pour le reste, eh bien, sur les régions de la moitié sud, ils seront présents pratiquement dans les mêmes zones que là où ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire sur une bonne moitié sud de la France, hormis Poitou-Charentes, et puis dans les régions de l'Est. Les températures pour demain seront identiques aussi, 18 à Brest, 19 à Caen, 21 à Lens, 22 à Paris, 23 à Bordeaux, 24 à Nice, 26 à Lyon, 29 à Marseille. Vous voyez que ce sont des températures quand même qui ont baissé par rapport à ces jours derniers. Elles sont plus respirables,
Mais ça ne va pas durer parce que ce week-end, la chaleur revient.
Exact, la chaleur revient à partir de dimanche. Et là, nous allons avoir une poussée vraiment calorique qui sera calorifique, qui sera particulièrement importante, avec des 32, 33, 35 la semaine prochaine.
Donc, oui, on va parler de peut-être un début de canicule ce matin.
Alors, la canicule, des canicules, il y en aura certainement cet été beaucoup. Mais la canicule type 2003, c'est-à-dire 15 jours, c'est autre chose.
Non.
Là, il ne faut pas avoir peur, ce sont des canicules normales à cette saison, c'est-à-dire 3-4 jours. Et si les orages reviennent, comme on le pense, là, en fin de semaine prochaine, eh bien, ça va briser la canicule et les orages seront là, malheureusement, pour arrêter la montée des températures. Ce qui devrait se passer, théoriquement, en fin de semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on va avoir chaud.
Merci, Laurent Cabrol.